Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Au mois de novembre 2006, le magazine anglais The Economist titrait en une « What France Needs », c'est-à-dire ce dont la France a besoin. Le fameux hebdomadaire anglais annonçait 14 pages spéciales sur le sujet. Cette une était naturellement aux couleurs nationales, bleu, blanc, rouge, et en son centre, Margaret Thatcher y apparaissait en complet impeccable, avec un sourire presque malicieux, symbole d'ordre levant le doigt vers le haut, comme si elle souhaitait s'inviter dans la campagne présidentielle qui, déjà à la fin de l'année 2006, battait son plein. The Economist, après avoir enterré les années Chirac, glosait sur ces Français qui avaient inventé un nouveau mot d'ordre, le déclinisme, addition de croyances d'un pays irréformable. Et à y regarder de plus près, il est vrai que la France, à l'aube du XXIe siècle, ressemble étrangement à l'Angleterre des années 70, une Angleterre qui souhaite réformer par la Dame de Fer. Certes, comparaison n'est pas raison, mais encore une fois, la campagne présidentielle française nous a montré ô combien les candidats à l'élection souhaitaient puiser à l'étranger des grilles de lecture, des clés de compréhension et bien sûr des exemples à suivre. En France, nous le savons, le thatchérisme n'a pas bonne presse. Pourtant, le recul de l'historien permet de considérer cette ascension et cette action politique d'un nouveau regard. C'est pourquoi Un jour dans l'histoire a souhaité vous proposer deux émissions distinctes entièrement consacrée à l'ancien Premier ministre anglais. Au cours d'un premier volet, disponible dans la médiathèque de Canal Académie, nous avons vu quelles étaient les origines de Margaret Thatcher, la formidable influence de son éducation sur le reste de son existence, ainsi que les premiers pas dans la politique qui la menèrent jusqu'à la prise en main du Parti conservateur au mois de février 1975. Eh bien, dans ce second volet, je vous propose de découvrir la conquête du 10 Downing Street, les grandes réformes que Margaret Thatcher initia, ses inspirateurs, la nature de ce que l'on appela la révolution thatchérienne, ses succès et naturellement ses échecs, et notamment l'ultime échec, celui de la poll tax, qui lui sera fatal. Jean-Louis Thiriot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Canal Académie.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes en effet l'auteur d'une biographie consacrée à Margaret Thatcher, de l'épicerie à la chambre des lords, il s'agit du sous-titre, paru aux éditions de Fallois. C'est chez ce même éditeur que vous avez publié une biographie de François Ferdinand d'Autriche. Alors, nous avions laissé Margaret Thatcher à la tête du Parti conservateur qu'elle vient donc de conquérir et aux portes du pouvoir. Mais il faut rappeler le contexte. Le vote Thatcher contre Ted Heath était en quelque sorte un vote contre les perdants et il n'y a pas encore d'adhésion, on ne peut pas encore parler d'adhésion à ce qu'on appellera plus tard le thatchérisme.
Oui, c'est d'abord une révolte contre la situation de la Grande-Bretagne qui en 1979 se trouve dans une situation de crise incroyable. On l'avait évoqué la dernière fois, l'économie allait particulièrement mal. La Grande-Bretagne de Callaghan, qui était le premier ministre travailliste, se trouvait sous tutelle du FMI à ce moment-là. Et Margaret Thatcher arrive au pouvoir après une grève générale absolument phénoménale, qu'on a appelée le fameux hiver du mécontentement, où les chemins de fer ne circulaient plus, l'électricité était coupée deux jours par semaine, les piquets de grève interdisaient l'accès aux urgences, les cadavres s'entassaient dans les morgues et peu à peu, la population britannique se rend compte qu'il faut faire autre chose. Depuis la guerre, depuis 1945, les syndicats avaient, avec plus ou moins d'influence, paralysé le pays. Et là, la population se rend compte qu'il faut faire autre chose. Et par conséquent, le Parlement d'abord, en renversant le gouvernement Callaghan, puis la population, lors des élections qui ont suivi en mai 1979, porte Margaret Thatcher à la tête du gouvernement.
Alors, avant d'arriver au pouvoir, elle change énormément, elle se préoccupe de son image. Il y a aussi la campagne publicitaire qui sera très importante.
Oui, elle est l'une des premières, en tout cas en Europe, à utiliser les techniques de marketing politique qui avaient cours de l'autre côté de l'Atlantique. Elle a été la première à faire notamment appel à une agence de publicité qui avait pignon sur rue, Saatchi & Saatchi, pour faire la campagne du Labour, non pas en 79, parce que, enfin, elle a recommencé en 79, mais dès 78, elle a réfléchi avec cette agence à un nouveau type de communication politique et elle choisit une affiche choc intitulée Labour is not working, où on voit une file de chômeurs attendant devant les bureaux des services de l'emploi locaux. Et cette affiche, qui n'a été affichée qu'à 30 ou 40 exemplaires, choque énormément parce que le parti conservateur se place sur le terrain habituel des travaillistes, qui est la lutte contre le chômage et la protection des plus faibles en matière sociale. Elle choque, elle fait un scandale, alors qu'il n'y a eu que 30 ou 40 affiches d'affichés. Toute la presse le reprend et c'est une publicité formidable qu'elle arrive à lancer pour le parti conservateur. Par ailleurs, elle ne se limite pas à ça. Elle s'entoure aussi de communicants, dont le fameux Ronnie Millar, qui était un auteur de pièces de théâtre à succès, qui sera son conseiller en communication pendant la totalité de ses mandats ultérieurs et qui notamment donnait toujours la patte, qui arrivait à donner un côté épique à ses discours, alors que spontanément, elle pouvait être assez plate et terre-à-terre.
Alors oui, avant la conquête du pouvoir, elle doit s'asseoir en quelque sorte dans ce parti, se donner cette légitimité. Et vous évoquiez ce dramaturge. En octobre 1975, c'est le congrès de Blackpool et c'est pour elle une consécration. Elle retrouve, elle se sent à l'aise plutôt avec les vrais gens, ce que vous appelez les fantassins, et elle fait un discours qui remporte un énorme succès.
Oui, ça a été l'une des forces de Margaret Thatcher, aussi bien pour conquérir le parti conservateur qu'ensuite pour être élu, ça a toujours été de passer par-dessus la tête des entre guillemets élites en s'approchant justement de la foule. Et c'est vrai qu'à Blackpool, alors que le parti conservateur était encore très largement dominé par les ouettes, les mous, ceux qui n'étaient pas prêts à une révolution culturelle, elle s'adresse au cœur de l'Angleterre conservatrice, aux militants, aux couleurs d'affiches, à l'Angleterre de base qui rêve d'un vrai conservatisme et d'un vrai libéralisme, et elle remporte un triomphe. Où à la fin, après son discours à Blackpool, elle dit « ça y est, je suis vraiment leader du Parti conservateur ». Et c'est l'onction populaire qui lui manquait.
Je me permets de citer une partie de ce discours. « On ne peut obtenir la prospérité en décourageant l'épargne. On ne peut donner la force aux faibles en affaiblissant les forts. On ne peut aider l'employé en terrassant son employeur. On ne peut développer la fraternité humaine en encourageant la haine des classes, etc. etc. » Elle est à la tête du Parti conservateur et elle vient d'arriver donc à la tête du Parti conservateur. Et particularité anglaise, le parti d'opposition monte un shadow cabinet.
Oui, le cabinet fantôme.
Le cabinet fantôme qui peut très bien gouverner finalement du jour au lendemain.
Oui, c'est une des forces du système britannique, d'ailleurs, dont apparemment
on en a parlé au Parti socialiste
récemment, qui est d'avoir constamment dans l'opposition un cabinet fantôme qui est prêt à gouverner au pied levé dans le cas où il y aurait un changement de majorité et qui est censé être prêt sur tous les dossiers à prendre les affaires en main. Et c'est ce à quoi elle s'attache avec beaucoup d'énergie pendant les 4 années d'opposition entre 75 et 79, c'est d'être prête à gouverner. Et ce qui est important concernant Margaret Thatcher, c'est que non seulement elle fait travailler son shadow cabinet, mais elle fait surtout travailler des officines plus privées avec des hommes de l'ombre qui préparent un vrai programme. C'est qu'il y a une vraie dualité de programme. C'est qu'il y a un programme officiel du shadow cabinet qui est conservateur, libéral, mais modéré. Et puis, il y a un vrai programme intitulé Stepping Stones qui est fait par des hommes de l'ombre, souvent d'anciens officiers des services secrets et qui, lui, est beaucoup plus énergique, notamment sur les privatisations, sur les syndicats, sur tous ces thèmes-là, où dans sa campagne, elle est quand même beaucoup plus mesurée parce qu'elle est, elle sait aussi les vertus du pragmatisme.
Stepping stone signifiant le tremplin. Alors, il y a ce travail au sein du parti, il y a ce programme de politique intérieure, mais pour accéder à la charge de Premier ministre, on doit avoir une stature internationale. Comment Margaret Thatcher arrive à obtenir cette stature internationale ?
Alors, c'est un de ses grands succès pendant la période où elle est chef de l'opposition, alors qu'elle n'avait aucune expérience internationale. Il faut le rappeler, le seul poste qu'elle avait occupé, c'était au cabinet, c'était le poste de ministre de l'Éducation nationale, alors que la plupart des premiers ministres, avant d'avoir été premier ministre, avaient occupé, par exemple, le Foreign Office. Elle, ce n'est absolument pas le cas. Et elle s'entoure d'experts des différents pays dans lesquels elle se rend. Elle organise une tournée à travers le monde qui ne sont pas des gens du Foreign Office et qui sont souvent ou des des universitaires ou des experts ou des gens qui ont eu des expériences militaires dans le renseignement, etc. Et par ce biais-là, tous les voyages qu'elle fait, qui vont de la Chine à Israël, en passant par le Pakistan ou les États-Unis, où elle est reçue par le président Carter, d'ailleurs qu'elle ne goûte guère, évidemment, on s'en doute, elle parvient à ne jamais faire de faux pas. Et c'est tout à fait notable, parce que ça n'est pas nécessairement le cas de tous les candidats. Et elle, elle évite les gaffes, et c'est tout à fait remarquable.
Ce qui est paradoxal, c'est que l'expression de la dame de fer date de cette époque, et elle vient de l'Union soviétique.
Oui, elle vient de l'Étoile Rouge, qui était l'organe officiel des forces armées soviétiques, qui, après des discours très violemment anticommunistes de Margaret Thatcher, a cru lui faire du mal en disant « c'est vraiment une dame de fer ». Margaret Thatcher écrit dans ses mémoires « c'est le seul cadeau que m'ont fait les communistes, mais c'est probablement le plus beau de m'avoir appelé la dame de fer », parce que c'est devenu un slogan qu'elle a repris à son compte.
Pourtant, c'est une personne qui sait, on l'a vu au cours de l'émission précédente, qui sait arrondir les angles, qui sait, non pas transiger, mais elle sait parler finalement. Elle arrive au pouvoir grâce à sa capacité à arrondir ses angles.
Oui, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'aventure individuelle. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques de son cheminement politique, c'est qu'elle avait des idées très arrêtée depuis les années 60-70, notamment à travers le travail qu'elle avait fait avec les think tanks. Mais elle savait que pour y arriver, elle avait besoin de transiger. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Elle avait besoin de compromis. Elle avait besoin de mettre dans sa poche, si vous me pardonnez l'expression, une partie du parti conservateur. Et elle ne croyait pas aux aventures individuelles d'individus comme Enoch Powell, par exemple, qui finalement n'étaient pas loin de partager ses idées, mais qui ont décidé de faire un trajet hors parti. Et elle savait l'importance des appareils, elle n'y croyait pas. Et quelque part, on ne peut pas ne pas penser à certains parallèles avec la France, où on constate finalement que les candidatures hors appareil qui ont pu avoir lieu au présidentiel, je pense à Édouard Balladur ou je pense à Raymond Barre, l'un et l'autre ont échoué, peut-être pour une équation personnelle, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas derrière eux la force d'un appareil. Et ça, Margaret Thatcher en était extrêmement conscient. L'appareil est essentiel et on ne gagne pas contre son parti, on gagne avec son parti et ensuite on l'oriente dans le sens où on a envie de le faire.
Alors vous décriviez en début d'émission la situation de l'Angleterre de ces années 70 et pourtant ce n'est pas cette situation qui porte Margaret Thatcher au pouvoir, c'est la question écossaise.
Oui, c'est la question écossaise. C'est exact, oui, et ça n'est pas exact, parce que c'est un vote de confiance sur la question écossaise et sur la dévolution qui met le gouvernement travailliste en minorité. Oui. Mais le gouvernement travailliste est mis en minorité.
À une voix.
À une voix. Parce que c'est l'hiver du mécontentement et parce que les fameuses grèves que j'évoquais aboutissent à ce qu'un certain nombre de députés libéraux, c'est-à-dire centristes, et un certain nombre, 5 je crois, députés travaillistes, passent à l'opposition et se rallient à elle. Mais c'est vrai que c'est sur une question de confiance posée sur la question écossaise que va chuter le gouvernement Callaghan.
Donc les élections sont un succès ?
Les élections sont un succès. Margaret Thatcher l'emporte avec une majorité assez sérieuse. Elle est tellement... parce que toujours ce côté prudent, travailleur, le bœuf de labour qui rase son sillon, même alors que les sondages lui sont favorables, jusqu'au bout elle a des doutes et jusqu'au bout elle craint même de ne pas être réélue dans sa circonscription de Finchley alors que c'était une circonscription quasiment imperdable. Et jusqu'au bout elle laboure le terrain avec une campagne très musclée où là aussi elle a le sens des images et notamment elle se fait photographier avec un veau dans les mains alors qu'on la connaît et on sait le côté impeccable toujours avec les tailleurs impeccable de Margaret Thatcher, mais elle y va, elle fait vraiment une campagne de terrain à travers tout le pays et le résultat est qu'effectivement elle arrive à toucher les vrais gens et surtout sa force c'est qu'alors que l'élite conservatrice avait toujours eu une politique qui était essayons de mobiliser les conservateurs et essayons d'être suffisamment modérés et centristes pour ne pas faire fuir d'éventuels travaillistes modérés. Elle, elle pratique la politique inverse, c'est-à-dire qu'effectivement elle veut mobiliser l'électorat conservateur et elle estime qu'on ne le mobilisera qu'en tenant un discours vraiment conservateur, mais en même temps, elle va chercher l'électorat travailliste en disant finalement, vos vraies valeurs, ce sont les valeurs conservatrices, parce que les travaillistes ont trahi l'héritage anglais en raison notamment de leurs accointances avec le marxisme, de leur pacifisme, de tout ce qui fait les libertés britanniques. Et on constate, quand on analyse le scrutin, un vrai transfert de voix au niveau des régions traditionnellement travaillistes de l'ordre de 10 à 15%, ce qui veut dire qu'elle a bien réussi à mordre sur l'électorat travailliste.
Elle arrive au number 10, le 10 Downing Street. Et étonnamment, elle cite un personnage, il s'agit de Saint François d'Assise. Là où est la discorde, puissions-nous apporter l'harmonie. Là où est l'erreur, puissions-nous apporter la vérité. Là où est le doute, la foi. Et quand il y a du désespoir, puissions-nous apporter l'espérance. On retrouve l'éducation religieuse de Margaret Thatcher.
Oui, alors sachant que cette phrase lui a été glissée par Ronnie Millar, qui a trouvé que c'était une très bonne opération de communication. Je ne suis pas sûr que Saint François d'Assise soit nécessairement dans son héritage culturel, religieux et protestant. Toujours est-il qu'on lui glisse ça à la dernière minute et elle prend tout le monde à rebours. Parce que ce qui est aussi le talent de Margaret Thatcher, c'est que tout le monde s'attendait à un discours musclé, énergique, etc. Et les premiers mots qu'elle tient sont un discours de paix et d'apaisement. Et ce qui fait que certains de ses ministres fulmineront, après avoir été chassés du gouvernement, quand même ce discours. Quelle escroquerie c'était, jamais on ne pouvait autant se moquer du monde. Mais ça a énormément touché les Anglais qui ne s'y attendaient pas du tout.
Je reçois Jean-Louis Thiriot, auteur du livre Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords, paru aux éditions de Fallois. Jean-Louis Thiriot, nous nous retrouvons dans un instant. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Jean-Louis Thiriot, biographe de Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords, un livre paru aux éditions de Fallois. Alors, nous évoquions Saint François d'Assise avant cette pause. Et dans votre ouvrage, vous expliquez que son projet pour l'Angleterre, maintenant qu'elle est élue, n'est pas limité à l'économie. Vous parlez d'un faisceau de convictions qui résulte, dites-vous, de sa foi chrétienne.
Oui, je pense que le plus gros contresens que l'on peut faire sur Margaret Thatcher, c'est de la réduire, comme le font nombre de commentateurs en France, mais aussi dans un certain nombre de cas en Grande-Bretagne, à la dimension économique de son programme. Alors c'est vrai qu'elle était économiquement libérale, c'est vrai qu'elle était monétariste, c'est vrai que ça faisait partie de ses convictions, mais ce sont les conséquences de quelque chose de beaucoup plus essentiel et non pas le fondement de ses convictions. Elle expliquait un jour dans une interview « L'économie, c'est le moyen, ce qui compte, l'essentiel, c'est l'âme ». Et je crois que c'est tout à fait vrai et tout au long de sa carrière politique, et on le voit aussi tout au long de ses mémoires, la dimension religieuse de ses engagements est essentielle. Et je vais, si vous en êtes d'accord, citer un passage qui, pour moi, est marquant parce que ça résume très bien tout ce qui va en découler ensuite. C'est un discours qu'elle a tenu le 21 mai 88 devant l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse. Texte tout à fait remarquable dans lequel elle dit « Je vous parle de la manière dont je vois les choses, je cite, non seulement comme femme politique, mais avant tout comme chrétienne. » Et là, elle reprend après les éléments capitaux de sa foi et je la cite à nouveau, ce qui prouve à quel point c'était ancré chez elle. « Je crois, premièrement, qu'au commencement, l'homme a été créé par Dieu avec le droit fondamental de choisir entre le bien et le mal. Deuxièmement, que nous avons été créés à l'image de Dieu et que par conséquent, nous devons utiliser toutes nos forces pour exercer intelligemment ce choix. Troisièmement, que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il a été confronté au choix crucial et à sa veille solitaire au Golgotha, a librement choisi de se livrer. Personne ne lui a ôté la vie, il a choisi de se livrer lui-même. » Ce texte est capital parce qu'on comprend que le libéralisme économique de Margaret Thatcher, que ses idées du self-help, aide-toi toi-même, sont le résultat direct de sa conviction religieuse et d'une parabole qu'on retrouve citée, je crois de mémoire, une quarantaine de fois dans ses mémoires, c'est la parabole des talents. C'est-à-dire que chacun doit donner le meilleur de lui-même. Et donner le meilleur de lui-même, ça veut dire d'abord se sortir lui-même des situations difficiles dans lesquelles il peut être, et c'est un éloge, une sorte d'éloge de la volonté. Et tout le reste en découle, c'est-à-dire que les réformes économiques de Margaret Thatcher, qui sont que l'État a vocation d'être un État modeste, qui sont qu'une économie doit être une économie de l'offre et non pas une économie de la demande, parce que la demande s'est poussée à l'assistanat, qui font que l'aide sociale doit être limitée au minimum et que c'est à chacun d'essayer de s'en sortir, et également l'éloge de la charité, parce qu'on a des passages sur l'égalité qui sont très intéressants chez Margaret Thatcher, qui est de dire que l'égalité pour elle n'est pas une valeur, que chacun est égal en dignité, mais que l'inégalité est un stimulus pour pousser chacun à essayer de se dépasser lui-même. Et tout cela, c'est au nom de cette parabole des talents qu'elle le fonde. Et ensuite, les idées de Margaret Thatcher sur le monétarisme, c'est-à-dire que le contrôle de la masse monétaire est la condition sine qua non pour lutter contre l'inflation et pour avoir une économie saine, toutes ces idées pratiques qu'elle mettra en œuvre finalement ne sont que la conséquence de cette mise en avant de l'individu. L'autre élément capital de ses convictions, c'est law and order, la loi et l'ordre, c'est-à-dire qu'elle estime que le rôle de l'État, c'est de fixer les grandes autoroutes, les grandes architectures dans lesquelles une économie de marché doit pouvoir s'exercer librement. Et pour cela, il y a la loi qui est sacrée. Là, on est bien dans le modèle anglo-saxon du modèle de Westminster, hérité de la Magna Carta de 1215, qui est pour elle le texte fondateur. D'ailleurs, dans son dernier livre, Statecraft, c'est sur ça qu'elle finit, sur le chant de Runnymede de Kipling. Et la loi est pour elle sacrée, c'est au Parlement que doivent se prendre les décisions et pas dans la rue. C'est pourquoi elle dénie constamment aux syndicats ou, entre guillemets, partenaires sociaux, le droit d'influer sur les décisions du pouvoir. Et corollaire de cette loi, on sait bien que la loi, sans l'application de la loi, c'est le début au mieux du désordre.
Au pire de l'anarchie,
ça suppose que les pouvoirs publics soient là pour faire régner la loi, et c'est pourquoi dans tous les domaines, que ce soit face à l'IRA, que ce soit face aux syndicats, que ce soit face à d'autres éléments troubles, elle demandera toujours aux forces de l'ordre d'être intransigeantes pour maintenir justement cet ordre qui résulte directement de la loi.
À vous entendre, Jean-Louis Thiriot, on a l'impression qu'elle développe toute une théorie des idées politiques. Pourtant, ce n'est pas une théoricienne, elle est plus dans la philosophie de l'action. Elle a des inspirateurs, mais elle est, elle, dans l'action.
Ah, tout à fait. Là, je dirais que quelque part, ce que je viens de faire, c'est une reconstruction a posteriori qui est d'essayer effectivement de définir les fondements du projet thatcherien. Maintenant, ça n'est pas une théorie qu'elle a bâtie, ça n'est même pas une théorie qu'elle a décrite, parce que ses mémoires sont une série d'anecdotes enfilées avec, de temps en temps, au détour d'une phrase, un passage qui dit quels sont ses principes. Et ensuite, elle picorait, dans le cadre de ses convictions, ce qui lui correspondait le mieux chez tel ou tel inspirateur en matière économique, quelqu'un comme Sir Kate Joseph, par exemple, qui jouerait un rôle déterminant.
Von Hayek également.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment les grands théoriciens de la société libérale, c'est-à-dire Hayek, Karl Popper, la société ouverte et ses ennemis. Et puis, il y a des théoriciens qui sont plus ceux de la mise en œuvre pratique et qui sont Kate Joseph, qui sera un de ses ministres, et Milton Friedman également, le prix Nobel, qui développe la théorie du contrôle de la masse monétaire pour lutter contre l'inflation. Et ça, ce seront des inspirateurs pratiques sur la politique qu'elle va mener.
Vous êtes d'ailleurs assez critique, hein, à l'égard de ses mémoires. Vous dites « Les mémoires de guerre du général de Gaulle se dévorent comme une épopée, ceux de Churchill comme un cénotaphe à la gloire d'un empire au crépuscule, ceux de Margaret se parcourent comme un pinsum. Autant dire que pour y trouver les traits de sa réussite, il faut lire entre les lignes, relever une expression au détour d'une phrase et surtout examiner les modalités de son action. »
Oui, c'est un pinsum pour le biographe. Déjà, donc a fortiori, je pense, pour le lecteur qui n'a pas à écrire une biographie de Margaret Thatcher. Elle a écrit ce livre après avoir été chassée du pouvoir, alors qu'elle avait énormément de comptes à régler et qu'elle révèle un des traits de son caractère, qui est l'absence de capacité de synthèse et une capacité incroyable à se noyer dans les détails. Elle surpassait la plupart de ses ministres et nombre de ses collaborateurs par le fait qu'elle voulait connaître tous les dossiers à fond, mais ce qui était probablement une de ses faiblesses, et qu'elle ne déléguait jamais. Et ses mémoires, c'est pareil. Elle veut tout dire, tout mentionner, tout rappeler. Et c'est vraiment en creux que se lient les modalités de son action politique.
Vous n'avez pas évoqué tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de l'économie, vous avez parlé de sa conception, hein, chrétienne. Quelle place a la politique étrangère dans ses conceptions ?
Alors, la politique étrangère, en termes en tout cas de fondement philosophique, elle estime que c'est d'abord le lieu de la réalpolitik. Ce qui veut dire qu'elle estime qu'une politique, par exemple, des droits de l'homme n'aurait pas grand sens. En revanche, le fondement de sa conviction, c'est que dans les années 79, on est dans la Seconde Guerre froide, avec l'invasion de l'Afghanistan qui vient d'avoir lieu, il ne faut pas l'oublier, l'ennemi c'est l'Union soviétique. Et ça, elle le dit sans l'ombre d'une hésitation. Elle se vit comme une héritière de Churchill qui avait, on s'en souvient, prononcé le fameux discours de Fulton où il avait annoncé ce rideau de fer qui tombait sur l'Europe, et elle se vit en croisée de l'anticommunisme. Et on dit, alors je ne sais pas si c'est exact, je n'ai pas pu en avoir la preuve, que c'est elle qui aurait inspiré à Ronald Reagan l'expression « l'empire du mal » qu'il emploiera plus tard. Mais en tout cas, tout
ce sera réutilisé.
Et qui sera réutilisé. Enfin, après, on a plutôt réutilisé « rogue states », les États voyous. Mais c'est le fondement de son action politique, c'est ça. Ensuite, il y a la problématique européenne, mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard, qui est le principe de la souveraineté de la nation, le principe général du libre-échangisme. Et là, c'est assez piquant, parce qu'elle est conservatrice, alors qu'on se souvient que l'opposition, entre, tout au long du 19e, entre les libéraux et les conservateurs, c'était l'opposition sur le libre-échangiste. Et alors qu'elle était conservatrice, on peut la voir comme une héritière de Gladstone, c'est-à-dire que pour elle, la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation, qui autrefois s'appelait le libre-échangiste, n'est absolument pas un problème. Elle considère au contraire que la prospérité résulte de la plus grande liberté des échanges internationaux.
Alors pour illustrer sa philosophie, sa pensée, vous livrez l'image d'un film, celui des chariots de feu, mis en musique par Vangelis.
Oui, c'est un film qui, je crois, incarne le mieux la philosophie de Margaret Thatcher. On rappelle à nos auditeurs le thème du film. C'est l'histoire d'un jeune homme qui ne vient pas de l'establishment, qui arrive à Cambridge et qui est très doué pour la course à pied et qui, alors qu'il n'est pas du club, parvient à se hisser au premier rang par sa seule volonté en matière de course à pied et qui finira par obtenir une médaille pour la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques. Et ce film est extrêmement intéressant parce que, un, c'est l'éloge de la volonté. Deuxièmement, c'est la conviction que rien n'est jamais dit d'avance et que tout le monde peut avoir sa chance à condition qu'il en ait la volonté. Et c'est le rêve américain, d'une certaine manière, c'est que chacun, d'où qu'il vienne, doit pouvoir saisir sa chance. C'est l'antithèse de la société de caste et de la société de privilèges qui était très largement la société britannique. Et puis, il y a un troisième élément du film qui est important, c'est que jusqu'aux années Thatcher, le parti conservateur était très largement dominé par des dilettantes d'excellentes familles, mais qui n'étaient pas forcément des spécialistes et des travailleurs acharnés. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal des chariots de feu, à la différence de ses camarades, s'entraîne avec un entraîneur professionnel et ne se contente pas de courir un peu au hasard sans professionnaliser sa réussite. Et ces trois éléments, c'est le cœur du rêve thatchérien, du rêve d'une société où chacun peut donner le meilleur de lui-même. Ce film, Le Chariot de Feu, c'est la parabole des talents en images et c'est très exactement ce qui se passe avec le corollaire dans la société britannique, qui est qu'une société de caste avec tout le côté raffiné qu'il pouvait avoir, et partiellement, je dis bien partiellement parce que c'est encore très incomplet, mais est partiellement remplacé par la méritocratie. Et ça, c'est un des acquis des années thatchériennes qu'on a tendance à oublier complètement.
Alors, il y a un point que nous n'avons pas encore évoqué, pourtant il est très important. Il s'agit de la première femme à accéder à la tête d'un gouvernement en Europe occidentale. Pourtant, la féminité n'est pas une question primordiale pour elle.
C'est même tout le contraire. C'est qu'elle a probablement été élue parce qu'elle a réussi finalement à se présenter comme plus masculine que les candidats masculins eux-mêmes. Et permettez-moi de citer une anecdote. Lorsqu'elle est élue Premier ministre, il y a un journaliste qui lui demande « Mais quel effet ça vous fait d'être la première femme Premier ministre d'un grand pays européen ?» Et elle répond « Écoutez, je n'en sais rien, je n'ai pas l'expérience de l'autre sexe. » Et je crois que ça résume bien son approche de la question du féminisme. Ça n'était pas une question. Elle a eu très peu de femmes au gouvernement. Elle en a eu jusqu'en 1983, elle n'en a plus eu après. Elle se vivait tout simplement comme un homme politique. Le hasard avait fait que c'était une femme, mais elle se vivait comme un homme politique, homme au sens neutre du terme.
On sait comment la reine d'Angleterre a réagi à cette élection et puis au fond quels étaient ses rapports, puisqu'elle va rester 11 ans au pouvoir, plus de 11 ans, avec la famille royale.
Alors à l'élection, non. Concernant les rapports, on a très peu de choses qui ont filtré. Le principe étant que tous les jeudis, la reine reçoit pendant une heure le Premier ministre et que tout ce qui s'échange au cours de cet entretien est strictement confidentiel. Et tant du côté du palais de Buckingham que du côté du 10 Downing Street, le sujet sera quasiment tabou. Aucune fuite ou quasiment aucune fuite n'apparaîtront et on a 10 lignes très formelles dans les mémoires de Margaret Thatcher. La seule chose qu'on peut avoir, c'est ce que j'appellerais des rumeurs de chancellerie et ce qui circule dans les ambassades, notamment quelques diplomates avec lesquels j'en ai parlé, m'ont raconté des anecdotes vraies ou fausses.
Et vous taisez les noms des diplomates.
Et je tais les noms parce que certains occupent ou en tout cas ont occupé de hautes responsabilités. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il est clair que la reine n'avait que très peu d'atomes crochus, ne serait-ce qu'en raison de leur parcours personnel très différent et de leurs origines sociales très différentes avec Margaret Thatcher. La reine d'Angleterre aimait les chiens, la chasse, les chevaux, la campagne, la nature et les beurre-bourres trempés. Margaret Thatcher ne se sentait à l'aise qu'en escarpins et en tailleur. Et pour elle, mettre des bottes en caoutchouc était un véritable exploit. Et on sait quand elle avait passé le week-end annuel à Balmoral chez la reine, c'était pour elle un pince-somme absolu. Elle essayait de s'enfermer dans son bureau, ça ne l'amusait pas du tout de parcourir les landes mouillées en bottes en caoutchouc.
Elle se levait très tôt pour repartir.
Une chose qu'aurait dit la reine, qui m'a été racontée 3-4 fois, donc je pense que c'est probablement exact, c'est que Margaret Thatcher l'exaspérait par son formalisme excessif. Et un jour, Margaret Thatcher se tenait toujours droit sur la chaise sans jamais s'appuyer au dossier. Et la reine aurait dit ce que cette femme peut être agaçante. On a mis 1500 ans à inventer le dossier et elle est assise sur sa chaise comme si elle se trouvait sur le dos d'un œuf. Donc voilà ce qu'aurait dit la reine. Le seul cas un peu sérieux, on a vraiment des éléments de tension entre le palais de Buckingham et le 10 Downing Street, c'est au moment du congrès du Commonwealth en 1986 où la question qui se posait était les sanctions à l'égard de l'Afrique du Sud ou pas. Margaret Thatcher y était opposée. La reine tenait beaucoup plus que Margaret Thatcher au Commonwealth parce que c'était un héritage de l'Empire et que c'était la grande tradition de la couronne britannique. Et elle a eu peur, la reine, que la politique de Margaret Thatcher ne mette en cause les liens du Commonwealth. Et là, des informations ont probablement volontairement fuité du côté de Buckingham, laissant entendre la grande réserve de la reine à l'égard de la politique de Margaret Thatcher. C'est le seul cas où vraiment l'opposition a été quasiment publique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait probablement une estime de la reine pour son premier ministre, ne serait-ce que parce qu'elle a vu les résultats qui ont été quand même globalement assez positifs. Et ça s'est manifesté notamment par le fait que non seulement elle l'a nommé à la Chambre des Lords, ça c'est assez traditionnel, mais elle l'a anobli d'un titre héréditaire de baronesse Thatcher, ce qu'elle n'était absolument pas obligée de faire. Et donc c'est la preuve que la reine mesurait l'apport de Margaret Thatcher à la grandeur de la Grande-Bretagne.
Alors quelles vont être les décisions politiques, l'action politique de Margaret Thatcher au cours de ces 3 mandats? C'est ce que nous allons voir après cette pause.
Partez à la découverte du château de Versailles dans un programme spécial. Canal Académie vous offre une visite privée de Versailles avec Mathieu Davina, historien, chercheur au centre de recherche du château. Vous serez guidé dans le grand appartement du roi, dans l'appartement de l'étiquette, dans celui de la reine et dans les lieux de confort et d'hygiène de la résidence royale. Vous seront également présentés le hors-série du Figaro sur la Galerie des Glaces dont la restauration fait événement et le livre de Jérôme Delagorce sur les fêtes à Versailles. Retrouvez Versailles au temps de sa splendeur avec les émissions originales spécialement réalisées pour vous par la rédaction de Canal Académie et disponibles dans notre médiathèque.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à Margaret Thatcher avec Jean-Louis Thieriot, auteur d'une biographie sur le sujet, une biographie parue aux éditions de Fallois. Alors, Margaret Thatcher reste au pouvoir au cours de 2 mandats et demi, nous allons dire. Et les premières années ne sont pas des années faciles. L'année 1980, 81, 82 sont assez rudes et l'accouchement, si je puis dire, se fait dans la douleur.
Ah oui, les premières années, je crois qu'il faut vraiment distinguer 3 époques dans le gouvernement Thatcher. Le premier, c'est 79-82, jusqu'à la guerre des Malouines, et où là, elle a tout contre elle. Elle a tout contre elle, elle a une inflation très difficile à contenir, elle a une économie subventionnée où les entreprises perdent chaque année en productivité ce qu'elles gagnent en subvention, ce qui devient évidemment intenable, et où elle est obligée de dégraisser le mammouth, si vous me pardonnez l'expression, c'est-à-dire d'essayer de rendre productives des entreprises qui ne le sont pas. Et pour ne prendre qu'un exemple, British Steel avait une productivité inférieure de plus de 50% par rapport à ses homologues du continent. Donc, ce que Margaret Thatcher doit faire pendant ces années-là, c'est tout simplement assainir les fondements économiques. Et assainir les fondements économiques qui, son premier mandat, est quasiment économiquement intégralement occupé à ça, c'est-à-dire baisse des dépenses publiques, tentative de baisser les dépenses publiques et assainissement de l'économie nationale et des grands géants nationalisés. Et ça, ça se fait comment ? Mais ça se fait par des coupes sombres, et quand pendant 30 ans ou 35 ans, vous n'avez pas réformé, la réforme est nécessairement douloureuse. Et lorsque Margaret Thatcher arrive au pouvoir en 1979, il y a 1 million de chômeurs au Royaume-Uni. En 1982, il y en a 3 millions. Et je crois que ces chiffres-là suffisent à dire la violence de cette réforme. On a employé le terme casse sociale, mais je pense que c'est assez vrai. Elle a estimé qu'il fallait supprimer la culture de la subvention. Très vite, elle l'a fait dans un certain nombre d'industries. Et les résultats humains, notamment dans les vieilles cités manufacturières telles que Manchester, par exemple, ont été assez terribles. Il serait malhonnête de le nier. Les 3 premières années ont été très dures. C'est si vrai qu'en 1981, toute une série de grands universitaires patentés venant des plus grandes universités, en particulier de la London School of Economics, ont signé un manifeste expliquant qu'il n'y avait aucune justification économique aux réformes thatchériennes et qu'il fallait impérativement s'engager dans une politique de la relance. Margaret Thatcher refuse de le faire.
Elle persiste, hein, on l'appelle Tina.
There is no alternative. Et elle persiste. Au congrès du Parti conservateur, elle emploie cette expression qui vient aussi de Ronnie Miller, the lady is not for turning. La dame, sous-entendu, de fer ne fera pas demi-tour, à la différence de ce qui s'était passé du temps de Ted Heath en 72, le fameux U-turn. Et tout le monde pense qu'à ce moment-là, l'expérience thatchérienne va s'arrêter là et va se finir avec 3 millions de chômeurs et un échec généralisé. Et là
intervient la guerre des Malouines vue du côté argentin et la guerre des îles Falkland vue du côté anglais.
Vue du côté anglais, ce qui d'ailleurs m'a été reproché par un certain nombre de journalistes qui ont trouvé que j'aurais dû employer le terme Malouine et que Falkland c'était déjà prendre le parti de l'impérialisme britannique. Mais ça, c'est une anecdote. Toujours est-il qu'effectivement, on l'a appelé à ce moment-là Blessed Margaret. Margaret l'a bénie. Elle a cette chance extraordinaire et qui l'a d'ailleurs favorisée tout au long de sa carrière. Paradoxalement, qu'un général argentin en quête de popularité, le général Galtieri, se lance dans une aventure militaire pour reconquérir les Malouines sur lesquelles l'Argentine avait toujours eu des prétentions en termes de souveraineté puisqu'elles ne sont britanniques que depuis 1822.
Alors que rationnellement, c'est une folie parce que vous décrivez ce que sont les Malouines, c'est 600 000 moutons, 3 000 personnes.
Ah oui, mais ça n'avait strictement, reconquérir les Malouines n'avait aucun intérêt
ni stratégique
ni économique. Au point qu'un économiste avait fait un article dans le Guardian à l'époque, disons il aurait mieux valu donner 1,5 million de livres sterling à chaque habitant des Malouines, ça coûterait moins cher que d'aller les reconquérir de vive force. Mais là, Margaret Thatcher, et on retombe sur law and order, ça vaut aussi pour les relations internationales, on ne prend pas un territoire britannique de cette manière, et donc elle décide de mobiliser la Grande-Bretagne pour aller reconquérir ces îlots perdus. Et c'est un courage tout à fait remarquable, parce qu'on a tendance, vu surtout de France, de se dire la grosse Grande-Bretagne et la petite Argentine, finalement, ça allait être une promenade de santé. Eh bien non, ça n'allait pas être une promenade de santé, et ça aurait pu être encore bien pire. Le problème, enfin la chance de Margaret, c'est que les Argentins ne croyaient pas que Margaret Thatcher organiserait une opération militaire. Ce qui veut dire que n'avaient été installés aux Malouines que des soldats de deuxième catégorie, des appelés du contingent, qui savaient plus ou moins bien se battre. Mais on aurait eu les troupes d'élite argentines aux Malouines. Les pertes, qui ont quand même déjà été de 300 morts à peu près, un peu moins, du côté britannique, auraient été nettement plus lourdes. Il y a eu des bateaux anglais de coulée, le Sheffield en particulier par un exocète français. Ce fut un combat difficile, mais qui a donné à la Grande-Bretagne le sentiment d'être à nouveau une grande nation. Et il ne faut pas oublier que depuis 1945, la Grande-Bretagne n'avait connu que des échecs diplomatiques, la perte des colonies, l'échec de Suez, le retrait à l'ouest de Suez, le refus de l'entrée dans la communauté économique européenne à plusieurs reprises. Et là, pour la première fois, la Grande-Bretagne se repositionne comme une nation capable d'être fière de ses couleurs. Devant la Chambre des communes, Margaret Thatcher dit « Britain is back », l'Angleterre est de retour. Et je crois que c'est le sentiment commun partagé par une très très grande majorité de la population qui sont très fiers de ce renouveau de la fierté nationale, de ce renouveau d'une victoire pour le pays. Et c'est grâce à ça qu'elle sera réélue en 1983. où là, elle pourra engager la deuxième vague de ses réformes.
Mmh, l'honneur anglais est ici très important.
Tout à fait. Mmh. Ça prouve qu'une nation ne se nourrit pas seulement de pain et qu'il y a besoin parfois de ce supplément d'âme et que tout n'est pas qu'une question de produit national brut. Ça n'avait aucun intérêt de reconquérir les Malouines, mais c'est probablement ce qui a rendu à la Grande-Bretagne l'itinéraire de succès qu'elle suit globalement depuis les années Thatcher et qui est encore vrai aujourd'hui quand on voit le relatif brio économique de l'Angleterre.
Mmh. Sans cette guerre, aurait-elle perdu les élections ?
Je ne suis pas Madame Soleil ou Madame Irma, donc je ne lis pas dans les boules de cristal. Je n'en sais rien, mais très honnêtement, je pense que oui. Parce que la vraie résurrection économique n'est arrivée que dans les années 85-86, et là, elle était au creux de la vague. Sa popularité était très basse avant les Malouines, et honnêtement, je ne vois pas quels auraient pu être les effets déclencheurs qui lui auraient permis de l'emporter une deuxième fois. Alors, c'est débattu, je sais que j'en parlais il y a peu de temps avec un diplomate français qui me disait si elle serait quand même repassée. Moi, je ne le crois pas.
Alors justement, le deuxième mandat constitue l'apogée en quelque sorte du thatchérisme.
Incontestablement, c'est l'époque de toutes les grandes réformes qui seront plus ou moins des succès. C'est d'abord la grande vague des privatisations qui est globalement une réussite. Quand je dis que c'est globalement une réussite, c'est que la Grande-Bretagne devient vraiment une nation de petits capitalistes. On passe de 3 millions à 11 millions de détenteurs d'actions. Alors bien sûr, la plupart d'entre eux ne détiennent que quelques actions. Mais lorsque vous êtes actionnaire, vous découvrez un certain nombre de réalités économiques et notamment que le profit n'est pas nécessairement un gros mot. Et c'est une pédagogie économique par ce biais-là qui est faite, qui contribue à changer radicalement l'état d'esprit des Anglais. Donc ça, c'est la première grande vague de réformes. La deuxième, c'est la réforme des syndicats qu'elle parvient enfin à mener à bien à l'issue d'un affrontement très dur avec les mineurs qui durera 18 mois, qui lui vaudra de tomber à un moment avec une popularité à 16%, mais malgré tout, elle tiendra et elle parviendra à réduire très sérieusement le pouvoir des syndicats et donc à créer une véritable efficience du marché du travail. Ce sont aussi les années du Big Bang de la City, c'est-à-dire où elle ouvre à la concurrence la place de Londres qui devient la première place financière européenne. C'est également le développement d'une nation de petits propriétaires. Avant son accession au pouvoir, un peu moins de 50% des Britanniques étaient propriétaires de leur logement. À son départ, 64%. Et ça, c'est à elle qu'on le doit à travers la vente des logements sociaux à leurs occupants. C'est enfin, et je m'arrêterai là, le développement d'une économie de petits entrepreneurs qui aboutit à ce que les emplois dans le secteur de l'industrie perdus, les 2 millions d'emplois perdus dans le secteur de l'industrie, se retrouveront tous, peu ou prou, dans le secteur des services, ce qui fait qu'à la fin du deuxième mandat, le chômage est retombé à 1 million d'habitants et la croissance économique dépasse en moyenne annuelle 3 à 4%. En ajoutant, ce qui est quand même important, c'est que tout ça se fait sans déficit budgétaire, puisqu'en 86 et 87, le budget de l'État britannique sera en excédent. Et cela sans tenir compte du pétrole de la mer du Nord.
Est-ce que le conflit avec les mineurs constitue en quelque sorte le tournant intérieur symbolique, c'est-à-dire du triomphe de la conception libérale de Thatcher?
Totalement. Depuis 1945, tous les gouvernements britanniques s'étaient heurtés au pouvoir des syndicats. Et Margaret Thatcher estime qu'une réforme ne peut être menée que si symboliquement ils sont ramenés à leur juste place, c'est-à-dire une place restreinte de partenaire social dans une entreprise. Point. Et il ne faut pas oublier que l'Angleterre connaissait notamment la pratique du closet shop à l'époque, c'est-à-dire que pour entrer dans une entreprise, on devait obligatoirement adhérer au syndicat majoritaire de l'entreprise. Donc vraiment, un syndicalisme tout puissant, un syndicalisme très marxisé, et elle décide qu'il faut tenir. Pour ça, elle s'y prépare d'une manière étonnante. C'est-à-dire que pendant près de 2 ans, en 80, elle avait failli avoir un affrontement avec les mineurs, mais elle constate qu'elle n'est pas en état de supporter l'affrontement. Et donc, elle cède, parce qu'elle sait que rien n'est pire que les effets de menton. Et
ce qui montre là encore sa flexibilité.
Tout à fait. Tout à fait. Un grand pragmatisme. C'est-à-dire que les effets de menton, quand on n'est pas en mesure de tenir, il ne faut pas les faire. On aboutit à être ridicule après avoir dit qu'on tiendrait. Elle estime que quand on y va pleinement. Et on le voit dans les mois qui précèdent cet affrontement avec les mineurs qu'elle pressentait. Elle fait stocker du charbon dans les centrales électriques. Elle demande aux unités du génie d'être prêts à faire fonctionner les trains avec l'argument qu'on se prépare à une éventuelle invasion soviétique et donc il faut être prêt à faire face au Spetsnaz, c'est-à-dire aux commandos soviétiques. En fait, c'est tout simplement que l'armée soit capable de faire rouler les trains si c'est nécessaire. Et donc, tout est planifié et quand l'affrontement arrive, eh bien, effectivement, elle tient. L'économie n'est pas paralysée, les centrales électriques ne sont pas paralysées Et à la fin, en plus, elle fait voter une réforme qui permet aux non-grévistes d'attaquer le syndicat qui les prive de revenus en raison des piquets de grève. Cette loi aboutit à faire condamner lourdement le NUM, le syndicat des mineurs, et en prenant les syndicats au portefeuille, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus subventionner les grévistes, elle aboutit à les faire plier. Et à les faire plier sans aucune, je dis bien sans aucune concession.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Louis Thieriot, auteur du livre Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords, paru aux éditions de Fallois. Nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. À tout de suite. Nous entamons la toute dernière partie de cette émission. Jean-Louis Thieriot, auteur d'une biographie, Margaret Thatcher, parue aux éditions de Fallois, est venu nous présenter ce personnage. Alors, nous avons évoqué toute cette politique intérieure. Il y a également la politique étrangère, la question européenne. On a l'image d'une Margaret criant « I want my money back », alors qu'il y a une idée reçue sur sa position sur l'Europe.
Oui, je crois qu'on voit Margaret Thatcher comme l'eurosceptique par excellence, voire l'europhobe par excellence. C'est tout à fait inexact. Il y a vraiment trois époques dans la vie politique, dans la carrière politique de Margaret Thatcher lorsqu'elle est au pouvoir. La première époque, c'est effectivement le « I want my money back », où là, on sait qu'elle tient à l'orthodoxie budgétaire et elle estime que les États qui adhèrent à la communauté économique européenne se doivent de récupérer grosso modo les mêmes montants que ce qu'ils versent au pot commun. Et la politique agricole commune aboutit, c'est vrai, à ce que la Grande-Bretagne ne récupère globalement qu'un tiers de ce qu'elle verse, puisque ce sont les subventions agricoles qui, d'ailleurs ça n'a pas vraiment changé, dévorent une grande partie du budget communautaire. Et là, elle se bat de 1979 à 1983 jusqu'au compromis de Fontainebleau pour obtenir un rééquilibrage et un nouveau versement, enfin un reversement d'une partie des sommes par le budget propre de la communauté européenne. Elle y parvient en 83 après une négociation marathon et à partir de ce moment-là, contrairement à ce que l'on croit, elle n'est plus europhobe, au contraire, et elle fait partie des éléments moteurs de l'acte unique européen qui doit créer le grand marché unique européen avec la libre circulation des marchandises et des services. On revient à ce que l'on disait tout à l'heure
sur l'ouverture de la place financière de la place Londres au monde entier.
Absolument. Et c'est l'ouverture au monde, et c'est aussi l'ouverture du marché européen qu'elle souhaite vraiment sans entrave et guidée par la libre concurrence. Et de ce point de vue-là, on peut quand même dire, même si elle ne serait probablement pas d'accord, que l'Europe aujourd'hui en tant que marché unique est largement son œuvre et que sur ce plan-là, au moins, il est devenu une réalité. Et puis, la troisième époque de Margaret Thatcher est contemporaine de l'arrivée de Jacques Delors à la tête de la Commission, avec lequel elle s'entend très mal. C'est, explique-t-elle, le prototype du technocrate très intelligent, mais terriblement dangereux et à l'esprit très faux. Et là, elle se heurte violemment à cette vision d'une Europe construite par les politiques et non pas construite par les libertés du marché. Et elle tiendra en 1988 son fameux discours de Bruges où elle dit grosso modo « on est en train de faire tomber à l'Est les règles du socialisme, ça n'est pas pour le réimposer à l'Ouest ». Et là, c'est vrai que de 88 à son départ, en 90, elle fera tout pour s'opposer à la politique européenne et notamment à l'union économique et monétaire voulue par Jacques Delors.
Alors Jean-Louis Thiriot, nous arrivons au terme de cette émission et nous ne pouvons pas ne pas parler de la déchéance, de la chute de Margaret Thatcher sur une question finalement anodine au regard de tout ce qu'elle a pu faire auparavant. Elle tombe sur une banale affaire d'impôts locaux.
Oui, elle veut effectivement réformer les impôts locaux qui est était calculé sur la base des propriétaires fonciers et non sur la base du nombre d'habitants dans les locaux en question. Et pourquoi est-ce qu'elle veut cette réforme ? Parce qu'elle veut responsabiliser les collectivités locales qui n'hésitent pas à taxer très fort en se disant finalement l'usager ne s'en rendra pas compte. L'idée en elle-même n'est pas idiote. Le tout, c'est que de facto, ce sont les classes moyennes qui vont payer le plus lourd tribut, les plus aisés qui paieront le moins. Et le résultat est politiquement catastrophique. Elle ne s'en rend pas compte. Je crois que la sagesse antique disait justement « Jupiter rend fou celui qu'il veut perdre ». Elle a perdu le contact avec la réalité. La roche tarpéienne est près du Capitole. Elle n'entend pas les députés de base qui mesurent le danger. Elle a perdu les meilleurs de ses secrétaires parlementaires qui ont tous les deux été assassinés par l'IRA. Elle n'entend pas monter la révolte de la base. En plus, il y a les jeunes loups qui poussent pour essayer de rentrer à la tête du Tendling Street. Et par conséquent, elle trébuche au cours de l'élection annuelle du leader du parti conservateur, alors qu'elle est d'ailleurs à Versailles à ce moment-là, un vote a lieu et elle n'a pas la majorité absolue. Michael Heseltine l'a fait chuter et elle décide de renoncer à la lutte parce que visiblement, c'est perdu, tous ses ministres trahissant successivement, ce qui fait que c'est une scène de défenestration incroyable. Un de ses conseillers parle d'une tragédie sanglante, un autre d'une comédie shakespearienne. Toujours est-il qu'elle est trahie par les siens et qu'elle se retrouve chassée de la présidence du Parti conservateur, et c'est John Major, son poulain, mais qui ne le restera pas très longtemps, qui lui succède à la tête du Parti conservateur et comme Premier ministre.
Pourtant, visiblement, à vous entendre, elle reste dans l'imaginaire britannique. Vous évoquiez sa statue qui a été réalisée. Elle reste dans l'imaginaire britannique comme laissant un bilan positif.
Ah oui, il y a un sondage qui a été réalisé, je crois que c'est en février de cette année, par le Guardian justement, sur les hommes politiques du XXe siècle et les hommes politiques les plus marquants et ayant laissé, enfin ayant le plus contribué à la grandeur de la Grande-Bretagne. Et elle arrive à 1% près, juste derrière Churchill, et à 81 ou 82% d'opinion positive. Donc elle laisse ce souvenir-là parce que je crois ça correspond globalement à la réalité en termes de vécu des habitants de ce pays. Si on prend le niveau de vie moyen, 90% des Britanniques ont bénéficié des années Thatcher. Les plus riches à hauteur de 60%, les moins riches à hauteur de 6%. Et il n'y a que 10% de Britanniques qui ont vu leurs revenus baisser de 17%. C'est-à-dire que certes, les inégalités se sont creusées, dire le contraire serait inexact. Elles l'assumaient parfaitement, mais globalement, l'ensemble de la population a eu un sentiment de prospérité qui est revenu avec un sentiment aussi que la nation britannique était revenue au premier rang sur la scène mondiale. On pense aux Malouines. Et l'ensemble de cela fait qu'effectivement, les Britanniques estiment que les années Thatcher ont été au final des années fastes, alors qu'au début, ça avait commencé d'une manière très très dure.
Elle a créé une middle class en quelque sorte.
Oui, il y avait déjà une middle class, mais en tout cas, elle a considérablement ouvert l'accès de la middle class à ce qu'on appelle l'upper middle class, qui sont les élites de la middle class qui se rapprochent de très très près de l'establishment. Les notions de caste sont beaucoup plus présentes en Grande-Bretagne que ça n'est le cas en France, et c'est notamment toute cette élite de la City, par exemple, qui sont des gens qui se sont faits par le travail, par les études dans les plus brillantes universités anglaises ou américaines et qui peuvent arriver à des rôles de premier plan, ce qui n'aurait probablement pas été le cas dans la City d'avant Margaret Thatcher.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Thiriot d'avoir répondu à nouveau à notre invitation pour présenter ce personnage. Je rappelle les références de votre ouvrage, Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords aux éditions de Fallois. Il s'agissait du deuxième volet consacré à Margaret Thatcher. Un premier volet est en ligne, vous le retrouvez dans la médiathèque de Canal Academy. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accueilli.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.